pas qui passait la serpillière. Il ressemblait à Big Bill Bronzy.
Wow.
Je lui ai demandé, pardon, est-ce que c'est vous, Big Bill Bronzy? Il a dit, oui, c'est moi. Aussitôt, j'ai pris le téléphone, parce qu'on se téléphonait de temps en temps, avec cet ami. Je lui ai dit, il faut lui sauter sur le poil tout de suite.
C'est clair.
Tout de suite.
Ouais.
Prendre son adresse, etc. Et moi, je vais lui écrire, parce que je veux le faire venir en France. Et avec l'aide de... J'en ai parlé à Panassier, avec l'aide du Hot Club de France, je me souviens avoir envoyé la première lettre à Big Bill Bronzy, qui était rédigée William... Pardon, William Lee Conley Big Bill Bronzy.
Mm.
C'était son nom en entier. Et il a répondu positivement, et on l'a fait venir en France.
C'était en quelle année? 1951, c'est ça?
1951. Et alors, il a joué dans tous les clubs qui étaient rattachés au Club de France, hein, il a donné des concerts, dont des concerts à Pau, évidemment, et à Bayonne aussi, parce que je m'occupais du Hot Club de Bayonne, et là, on a eu la chance qu'il reste pendant 8 jours à Pau. Et il venait tous les jours chez mes parents.
Ouais, parce qu'il faut, quand même rappeler une chose, Jacques, c'est qu'à l'époque, vous étiez encore une espèce de Tanguy, hein, c'est ça?
Eh bien oui, j'étais Tanguy.
Voilà.
La maison de mes parents était confortable, il y avait en plus du personnel qui pouvait ramasser mes chaussettes et mes caleçons et les nettoyer. Alors, donc ça a changé quand j'ai épousé ma femme.
Oui, 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 j'imagine, oui, oui. Et Jacques Gasser à côté, en train de se prendre la pêche aussi.
Écoutez, chacun est élevé. Ma mère était en admiration devant son fils. Elle a prouvé tout ce que je faisais. Hein, ce qui n'a pas été le cas de ma femme, qui m'a dit, les chaussettes, s'il y a un endroit pour les mettre, dans ça, dans 20 ans, elles seront encore là.
Est-ce qu'elle a ramassé les chaussettes de Bibi Bronzy en même temps?
Ah ben là, écoutez... ça commence à devenir un peu trop personnel.
Ah d'accord, ça marche. On va passer à un autre sujet alors.
Alors, Big Bill Bronzy est resté. Moi, j'avais déjà collectionné énormément de disques de lui, 78 tours. C'était à l'époque des 78 tours de Big Bill Bronzy. Et on ne savait rien sur le blues. Il n'y avait aucun livre, aucune discographie, aucun renseignement, aucune revue sur le blues dans le monde. C'était deux mondes séparés.
C'est incroyable, c'est incroyable. Je voudrais qu'on revienne sur cette phrase-là que vous venez de prononcer, Jacques. On ne savait rien sur le blues. Ça, c'est quelque chose que je vous ai entendu dire l'autre jour à Cahors. Ça nous paraît de la science-fiction en 2016. Hein.
Ben oui, eh ben écoutez, en 51, on ne savait rien sur le blues.
Ouais, ouais.
C'est pour ça que Big Bill Bronzy a été le premier des grands musiciens de blues à venir en tournée en France. Et lui, à Chicago, il avait un rôle important. C'était une sorte de grand frère qui a fait venir des tas de musiciens. C'est lui qui a fait venir Memphis Slim de Memphis. C'est lui qui a promu beaucoup de musiciens, qui a aidé Muddy Waters quand il est arrivé. Et alors, c'est pour ça que je dois dire une chose, c'est que Big Bill m'a aidé à défricher tout ce qu'on ne savait pas sur le blues.
Mmh.
Je l'explique un petit peu brièvement dans Mémoire de blues, mais c'est grâce à lui qu'on a commencé à avoir des renseignements sur cette musique.
On écoute en même temps quelques notes de Muddy Waters, puisqu'on vient de parler de ce père du blues, hein, comme on a pu le qualifier pour certains. Pas le premier, hein, parce qu'il y en a eu d'autres, mais peut-être l'un des plus grands, Muddy Waters, quelqu'un que vous avez pu rencontrer.
Ah bien sûr, je l'ai rencontré, beaucoup fréquenté. Il est venu chez moi, il a joué dans le salon de la maison, bien entendu, avec ses musiciens. Et c'était un homme d'une grande simplicité. On voyait qu'il n'avait pas la tête gonflée. C'était pas un artiste comme il y en a certains.
Oui, ou une star, comme on dirait maintenant, peut-être.
Voilà.
Hein? Voilà, avec ce son particulier hein, de l'époque. On est au début des années 50 et j'allais dire l'Europe. Non, la France. La France découvre le blues à ce moment-là, grâce à vous, et il a fallu attendre encore une bonne dizaine d'années avant que ce soit le cas, par exemple, de l'Angleterre. On a connu ensuite un British Boom, bon, c'est pas trop le sujet de l'interview, mais grâce à vous, j'ai envie de dire, 1951, ça a été la pierre angulaire du début de la découverte du blues en France.
Voilà, ça a démarré, là.
Et après,
il y a Thibaut Walker, que j'ai fait venir d'Angleterre, pour une tournée, petite tournée dans le sud-ouest, avec Toulouse, Pau, Bayonne, Bordeaux, et plus une soirée privée chez moi. Rendez-vous compte, Thibaut Walker chez soi, assis au coin de la cheminée.
Oui, c'est juste le rêve, quoi. C'est...
Le rêve, absolument le rêve.
Alors, peut-être prévoir du rôti de bœuf plutôt que du poulet ce soir-là, je ne sais pas. C'est une idée comme ça. Peut-être prévoir du rôti de bœuf plutôt que du poulet grillé, non?
Oui.
Ah, pour une prochaine fois, je ne sais pas.
Exactement.
Avec Thibaut Walker.
Et puis ça a été John Newker, etc. Et tous ces gens-là sont restés la plupart chez moi. Ma fille Slim, quand il est venu en 1961 en France, je lui ai fait faire son premier disque enregistré en France. C'était au théâtre de Bayonne.
Ouais.
Et on a fait, grâce à un ami qui avait un magnétophone, un Ampex, on a fait son premier disque, c'était un concert au théâtre de Bayonne. Et depuis, c'est devenu un familier de la maison, et c'est pour ça qu'on parlait de musique que j'ai enregistrée, parce que j'ai réalisé tout de suite, grâce à mon père qui était aussi dans cette partie, que le magnétophone était l'instrument qu'il nous fallait à nous, amateurs de jazz.
Oui.
Et de blues, parce que cette musique est avant tout une musique fugitive. Vous assistez à un concert un soir, oh c'était merveilleux, et oui, et où est cette musique? Mais elle s'est envolée, c'est foutu.
Je crois qu'à l'époque d'ailleurs, il n'y avait pas d'enregistrement live, si je me trompe. On enregistrait en studio uniquement, non?
Et j'ai eu tout de suite des très bons magnétophones, parce que j'ai vu que c'était l'instrument qu'il me fallait, et j'ai fait venir ma fille Slim pour un concert privé en 62, et j'ai enregistré tout son concert. De même que j'ai enregistré des concerts, des soirées privées avec Jimmy Dawkins et son orchestre, Willie Mabon, Lonnie Brooks, Sister Rosetta Tharp, qui a enregistré chez moi, Johnny Hooker, qui a fait un disque chez moi, comme vous savez.
Oui, oui, oui.
Luther Johnson, le grand, Georgia Boy. J'ai des concerts privés chez moi de Johnny Shines, etc.
Johnny Shines, qui a été l'un des compagnons en route de Robert Johnson.
Oui. Ah ben oui, absolument. Hein.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on amasse comme ça des enregistrements, qu'est-ce que ça fait comme ça des années plus tard? Qu'est-ce qu'on ressent quand on évoque tous ces souvenirs-là? Ça, c'est une question de Pedro Sabater sur Facebook. Qu'est-ce qu'on ressent, Jacques, quand on évoque tout ça, ces souvenirs qui sont lointains, qui sont proches à la fois?
Eh bien, écoutez, je dois vous dire une chose. C'est que je suis quelqu'un de simple. Des gens me disent, oh, ce que vous avez fait, ceci, cela, votre œuvre. Moi, j'ai pas d'œuvre. J'ai simplement suivi ce qui s'imposait à moi, parce que j'étais ému par cette musique, par les gens qui la faisaient. J'ai voulu les connaître et les faire connaître. Les faire connaître, c'est les enregistrer.
Oui.
Voilà. C'est pour ça que j'étais le superviseur des disques Black and Blue de mon ami Jean-Marie Monestier.
Jean-Marie Monestier, oui, PDG de Black and Blue. Moi, je peux vous dire, ça n'intéresse personne, mais au début de ma passion pour le blues, j'ai beaucoup acheté d'albums Black and Blue. Hein. Quelques MCM aussi, bien sûr. Et puis Black and Blue, c'était avec Isabelle Records aussi, au début des années 80, c'était un petit peu nos disques de chevet à tous les amateurs. Voilà, c'est des choses qui remontent à 35 ans déjà, mais ça paraît très très proche et à la fois très lointain.
Eh oui, mais j'ai fait ça d'une manière naturelle, je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait que je le fasse. C'est tout, j'ai fait, et mon devoir, si on peut dire, et mon plaisir avant tout.
Est-ce que parmi ces musiciens-là, il y en a certains qui sont restés en France? On pense à Memphis Slim, dont on parlait à l'instant. Il y a également Luther Allison, que vous avez côtoyé, qui s'est installé par chez nous. Qu'est-ce que ça représentait, au fond, pour eux, les musiciens noirs américains, d'avoir cette espèce de reconnaissance d'outre-Atlantique? Est-ce que ça vous est arrivé d'en discuter avec eux, avec certains d'entre eux, comme quoi on pourrait imaginer peut-être un voyage triangulaire à l'envers?
Ben oui, ben écoutez, c'est pas compliqué. J'en ai certains qui m'ont dit, plusieurs m'ont dit cette phrase. Ici, j'aime être ici parce que je suis enfin considéré comme un homme. Ah. Vous voyez, si ça va loin. Voilà. Et il y en a qui étaient très reconnaissants des concerts que j'organisais, des tournées que j'organisais avec eux, bien sûr. Mais je tenais à ce que ça se passe dans la plus grande simplicité, parce que moi, j'étais pas tour opérateur, hein, c'était pas mon boulot. Moi, je mettais les gens en contact avec cette musique.
Oui.
Voilà, c'est tout.
C'est très émouvant ce que vous venez de dire, Jacques. Ça, c'est quelque chose, voilà, genre de phrase qui passe et qui fait tout le tour du corps. Hein.
Olivier, oui, écoutez. Ouais. C'est pour ça qu'on en parlait avec mon ami Jacques Gasser, que je remercie au passage, parce que je serai toujours en train d'écrire mes petits articles dans mon bureau. C'est lui qui m'a fait connaître des amateurs. Il y en a qui me connaissaient par tous les textes que j'ai écrits au dos des disques,
ben oui,
les supervisions de disques que j'ai fait, c'est certain. Mais ça a pris soudain une ampleur qui me dépasse.
Voilà. Jacques, vous venez de parler de notes de pochette. Moi, j'ai sous les yeux l'album de Luther Johnson qui s'appelle Born in Georgia, qui a été enregistré en 1972, pour lequel vous avez écrit une note de pochette qui est traduite en anglais par Tina Biderman. Et dedans, vous écrivez, ouvrez les guillemets, « Avec Luther Johnson, nous avons une nouvelle preuve que la musique populaire, en grosses lettres, des Noirs des USA ne peut continuer à s'épanouir, s'enrichir par la révélation de nouveaux talents que dans la mesure où elle est partie intégrante de la vie même du peuple noir. »
Oui.
Fermez les guillemets. Est-ce que c'est quelque chose que vous signeriez à nouveau aujourd'hui en 2016?
Et oui, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, je l'ai vu lors de mes derniers voyages dans les années 80, on a fait honte aux jeunes noirs de leur musique.
Oui, oui, oui.
On leur a fait honte en leur disant, en gros, tu vas pas jouer la musique de ton grand-père. C'est l'époque où il se faisait botter le cul par son patron, et puis après, il allait s'envoyer ta grand-mère sur la paille dans la grange.
Wow.
Alors ça, cette musique, tu dois pas jouer ça. Voilà. Et j'ai une fois un souvenir, si vous avez deux secondes, je peux vous raconter. J'étais dans une boîte et il y avait un petit orchestre de blues. C'était dans les années 80, pas mal, quoi, mais c'était plus les grands créateurs, pas mal, qui jouaient. Puis il y avait, dans le fond, il y avait un bar et il y avait 5-6 jeunes noirs qui parlaient très fort, même trop fort.
Mmh.
Et je suis allé les trouver, parce que j'ai toujours été comme ça, en leur disant, dites-moi, j'espère que la musique ne vous empêche pas de faire votre conversation. Et il y en a qui dit, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit, ben, vous n'avez pas envie de prendre une guitare, de jouer de la guitare, de jouer de la contrebasse, jouer de la batterie, de jouer du blues? Il y en a un grand qui m'a toisé et qui m'a dit, en me touchant avec le bout de l'index, moi, monsieur, je suis un Américain. Je n'ai rien à voir avec cette musique qui est la musique de l'esclavage. Je ne veux pas en entendre parler. C'est la musique de l'esclavage, elle me fait honte. Ouais, voilà
ouais.
Ce que m'a dit un jeune noir dans un club où il était venu boire simplement une bière. Mais il y avait un orchestre de blues qui jouait. Mmh.
Et pourtant, les nouvelles générations continuent à perpétuer cette tradition du blues en s'enrichissant d'autres racines, j'ai envie de dire, et puis d'autres branches.
Il y a eu un grand creux à partir de 1980, et maintenant il y a un renouveau qui est souhaitable,
c'est clair.
Qui est visible.
On vient de s'en rendre compte ensemble, Jacques, parce qu'on a vu ensemble le même concert, c'était à Cahors, en juillet dernier, par un grand noir là aussi, un type qui a un succès, à mon avis, fou auprès des dames, mais... Et surtout qui bénéficie d'une aura extraordinaire parce qu'il a le sens de la scène, parce qu'il a une voix merveilleuse et puis aussi parce qu'il sait très très bien s'entourer de musiciens. Je veux parler de Sugar Ray Rayford, hein, qu'on a vu ensemble.
Bien sûr.
Voilà, qui pourrait représenter peut-être à lui tout seul le renouveau du blues. Est-ce que quelqu'un comme Sugar Ray vous a rappelé des gens que vous aviez découverts à l'époque, dans les années 50, 60, 70, 80?
Ben, il est certain que c'est réconfortant d'avoir entendu un gaillard comme lui. Parce qu'on se rend compte que ça peut très bien être un moteur. Vous voyez ce que je veux dire? Bien ça sûr. Peut être un homme qui va susciter des vocations et entraîner avec lui un grand nombre de musiciens et susciter des vocations.
Là, on en arrive à une autre question qui a été posée par un autre auditeur qui intervient sur Facebook, Olivier Durousseau, qui me demande « Quel artiste vous a le plus impressionné sur scène ?»
Ah, moi, il y en a beaucoup qui m'ont bien impressionné parce que j'ai connu tous les grands. Mais celui qui m'a impressionné, c'est Luther Allison.
Ouais.
Ah, vraiment
ouais.
Et il faudrait qu'on parle de Magic Slim aussi parce que...
Ah oui, on va en parler, on va l'écouter aussi, Magic Slim, bien sûr. Oui.
C'est la grande découverte de ma vie.
Et c'est également l'objet d'un album MCM. Je crois que c'était le tout premier enregistrement, du moins sur 33 tours, de Magic Slim, grâce à Marcel Morantini, hein, en 75, absolument. Si je me rappelle bien, 76. Luther Allison pour le côté scénique et Magic Slim pour la présence et puis...
La densité. Et celui qui m'a le plus ému de tous, c'est Luther Johnson.
Lequel?
Snake, Georgia Boy.
Snake Boy, d'accord. Ouais.
C'est pour ça que, quand j'ai entendu avec l'orchestre de Muddy Waters, un soir à Bordeaux, il y a Luther Johnson qui a chanté quelques titres, et j'ai dit à ma femme, tu entends, comme il chante ce jeune noir, c'est incroyable. Et à la fin de cette soirée, j'ai été le trouver, je lui ai dit, à quel hôtel tu es? Voilà, tel hôtel, ben, je voudrais venir te voir. Alors le lendemain matin, on était avec ma femme, il était là en pyjama, assis sur son lit, en train de jouer seul avec sa guitare. J'ai réalisé tout de suite qu'il se suffisait à lui-même, que c'était merveilleux. Je téléphone à mon essier, qui avait un petit studio à Bordeaux, je lui dis, il faut tout de suite que tu viennes au studio avec... l'ingénieur du son, et on va enregistrer Luther Johnson. Il me dit, oh, bon, ça va intéresser qui, c'est ci, c'est là. Il dit, écoute, tu m'écoutes, hein, on est là dans une demi-heure au studio, d'accord. Et tu discutes pas.
Ouais, ouais,
une demi-heure après, on était au studio, et j'ai dit à Luther Johnson, tu joues ce que tu veux, mais c'est le blues que tu joues.
Lonesome in my bedroom, hein, c'est ça.
Voilà.
Ouais.
Et je ne savais pas que ce disque aurait un tel impact auprès de tous les jeunes blancs, et français notamment, qui, comme Nico Wintoussin qui me l'a dit, que c'est un des disques, comme Michel Coison, un des disques qui l'a fait démarrer dans le blues.
On écoute quelques secondes de Luther Johnson, Jacques.
Très bien.
To talk to each night when I go home, a bedroom without a woman, just like a heart don't have no beat.
Voilà Jacques, ce que vient de dire Luther Johnson.
Oui, excuse-moi, deux secondes. Est-ce que tu peux patienter pour Jacques deux secondes?
Ah mais complètement, il a envie de pisser, c'est ça?
On va prendre le relais avec moi et il revient.
Ça me rappelle la conférence de Caron.
Oui.
Exactement, tout à fait. Jacques Gasser maintenant,
oui,
au téléphone. On est en train d'écouter... On est en train d'écouter Luther Johnson, on est en train d'écouter des tas de bluesmen de cette époque-là qui ont été découverts pour la plupart par Jacques Morgantini. Qu'est-ce que ça te fait, Jacques, toi qui es juste à côté, hein, qui nous... qu'est-ce que ça t'inspire, ce genre de mémoire perpétuelle comme ça, les anecdotes qui fusent à nouveau, enfin, on appuie sur un bouton et puis voilà...
C'est-à-dire que moi, la chose qui symbolise un petit peu tout ce que je pense ou tout ce que j'ai fait, c'est que c'est comme Jacques, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je capte ça. Je peux pas m'empêcher de ne pas le faire.
Ouais.
Je l'ai fait pour d'autres choses, je l'ai fait pour mon village, toute la mémoire collective pendant 10 ans en vidéo. J'ai capté au boulot, j'ai rassemblé des milliers de fichiers multimédia écrits ou sons ou images, etc. Rien que pour partager la connaissance, si tu veux, de chacun.
Mmh.
Je ne sais pas, c'est comme ça, ça fait partie de moi. Donc toute cette musique en plus, ça m'a permis de parfaire aussi ma connaissance du blues, hein, bien sûr, et puis de découvrir des gens comme Luther Snake Johnson, auquel je suis extrêmement sensible, et puis surtout ce Magic Slim qui me transperce complètement.
Ouais.
Il a des solos, je connais pas trop le langage de la musique, moi, mais il a des solos qui sont jamais les mêmes. Il arrive à faire des chorus dans la même chanson, il n'y a jamais un chorus pareil. Franchement, ce sont des gens qui me donne beaucoup d'émotions, et quand on sait que c'est l'émotion qui concourt à la construction de l'individu quand il est petit, eh ben je me dis que je suis content parce que je reste un enfant.
Ça c'est, ouais, voilà, ça c'est un truc à noter, à encadrer, parce que c'est vrai qu'on a tendance maintenant, dans un monde qui va trop vite, à pas toujours réagir comme il faudrait, j'ai envie de dire. La musique de l'âme, la musique de l'émotion, ça s'appelle le blues, hein, tout simplement.
Oui, absolument. Oui. Et alors, tu sais, là, je vais faire un aparté, là, mais tu sais, Jacques va se reposer souvent au mois de juin et au mois de septembre à l'île de Ré.
Oui.
Et alors, quand il revient, il est gorgé de soleil. Alors, je l'appelle le Big Bill bronzé du sud-ouest.
Est-ce qu'il est revenu de son périple jusqu'à la salle de bain, Jacques?
Non, non. Alors, parce qu'il a il a depuis 2 ou 3 jours quelques petits soucis de santé. Donc, il faut patienter un tout petit peu.
Bien sûr, on va patienter avec Luther Johnson. On écoute quelques secondes encore de ce fabuleux titre, Lonesome in My Bedroom.
Ah ouais, ouais, ouais. Nico le joue très bien.
C'est vrai.
I said goodbye, goodbye, baby. Ah, you don't love me no more.
Voilà, tout va bien à Pau. Jacques Gasser, Jacques Morgantini en direct sur le 666. C'est toujours Sweet Home Chicago. Ah, revenu, super.
Bienvenue.
On parlait de Magic Slim. On va écouter quelques secondes là encore voilà, un truc qui faisait très très bien aussi. Les blueslands, mais c'était aussi dans les boogies qui se rendaient célèbres. The Sky is Crying, hein, ici version Magic Slim enregistrée par Black and Blue. Mais c'est vrai qu'un type comme Magic Slim, immédiatement reconnaissable à la toute première note de guitare, et puis quelqu'un qui avait une présence scénique extraordinaire. Pas tout à fait la même trempe, la même catégorie que Luther Allison, parce que peut-être moins explosif, moins bouillant, mais hautement énergisant, je trouve. Hein. Jacques, es-tu là?
Oui.
Êtes-vous là?
Voilà.
Jacques Morgantini, tout va bien?
Ça va bien.
Alors, on parlait de Luther Johnson, on parlait de Magic Slim, tous ces artistes-là qui ont émaillé votre carrière de découvreur. J'ai envie de vous poser une question qui émane là également de Facebook. Lolo Quid Lolo qui souhaiterait savoir s'il y a un artiste de rêve qui manque à vos enregistrements.
Un artiste de rêve qui manque à mon enregistrement? Eh bien oui, bah, il est mort avant que j'aille aux États-Unis, c'est Elmore James.
Ah oui. Oui.
Alors Elmore James, ça c'est pour moi, c'est énorme. Il est magnifique, j'aurais voulu le connaître, mais hélas, ça ne s'est pas produit. Bon, mais en tout cas, quand j'ai rencontré Magic Slim, j'ai eu un choc tel que j'étais malheureux, comme tout, quand j'ai entendu sa musique, et que je suis revenu en France, évidemment, après ça. C'était en 75,
oui.
Et on avait nos gardes du corps qui nous servaient, bien entendu, c'était Jimmy Dawkins, Fred Bilo, les frères Myers.
Les Aces, hein, c'est ça.
Comment?
Les Aces, the Aces,
les As. Les Aces, tout à fait, les Big Boy Sodom, etc. Donc, ils nous escortaient dans tous ces endroits où les Blancs n'allaient pas,
oui,
bien sûr, pour découvrir des musiciens intéressants. Et là, il nous emmène le dernier jour de notre séjour, je me souviens, ils nous disent, il faut qu'on aille écouter Magic Slim dans le West Side, parce qu'il joue ce soir. Bon, on y va, assez grand club, ma foi, et j'avais emmené avec moi un enregistreur, un magnétophone portable, mais de bonne qualité, très bonne qualité, avec deux micros, et... Bon, j'ai posé sur la table, des amis musiciens avaient retenu une table près de la piste de danse et de l'estrade. Et là, il y a un grand noir qui s'amène et je me retourne. C'était Magic Slim. Il me dit, qu'est-ce que c'est ça, j'ai dit, ben ça c'est un... Je raconte dans Mémoire de Blues, du
reste.
C'est un enregistreur. J'ai dit, mais je n'en résiste que quand on me donne l'autorisation, bien évidemment. Alors il me dit, do it, fais-le. Bon, très bien. Et j'ai enregistré comme ça ces 8 morceaux de Magic Slim. Mmh. J'ai été tellement impressionné par lui que quand je suis rentré, j'étais malheureux de ne pas avoir la musique de ce musicien, de ce type-là, et de cet orchestre exceptionnel. Et j'ai demandé à des correspondants américains, mais allez l'enregistrer, faites quelque chose. Mmh. C'est invraisemblable que ce type-là, d'un tel talent, ne soit pas enregistré. Sa musique me manquait physiquement. J'étais malheureux. Et alors, quand ma femme a décidé d'aller à Chicago pour enregistrer des musiciens, je lui préparais évidemment les séances en disant, tu mets un tel avec un tel, tel batteur, tel bon. Quand je ne pouvais pas y aller, et là, je lui dis, ton objectif numéro un, c'est Magic Slim.
D'accord.
Voilà.
Ça fait partie, cet enregistrement, un enregistrement de chez MCM, là, tout premier album de Magic Slim, qui était, je le rappelle, le premier 33 tours de Magic Slim. Il me semble avoir vu quelque part un 45 tours, qui date de 1965, là encore bien antérieur, j'allais dire, enregistré aux États-Unis.
C'est vrai. Il avait fait deux petits 45 tours, plutôt un 45 tours et deux faces, et un 45 tours où il chantait sur une seule face.
Oui.
Et ça n'avait eu aucun effet,
oui,
c'était en 66, aucun effet sur sa carrière. Et les premiers disques, il dit, et du reste à peau, il le dit bien, my very first LPs, mes premiers micro-sillons, il n'y avait pas des CD à l'époque, ont été faits par Marcel Morgantini. Mmh. Et c'est mon fils Luc qui était aux manettes parce qu'on avait acheté un Agra et je l'ai appris au cours de tous les concerts et soirées privées à s'en servir. Il était très minutieux,
oui,
et il a été absolument remarquable pour les enregistrements. Voilà.
Un petit mot sur Marcel Morgantini, qui a été votre épouse durant de nombreuses années, qui a elle-même décidé de faire ses enregistrements. Pourquoi n'étiez-vous pas présent à Chicago avec elle pour les enregistrements MCM?
Eh bien, j'ai été pour certains, mais pour d'autres, j'ai pas été là parce que j'avais un travail professionnel.
Et quel était votre travail professionnel en dehors de la musique, Jacques?
Eh bien, j'étais formateur dans l'électrochimie chez Mazda, les piles Mazda.
D'accord, voilà.
C'est pour ça que c'est une lumière dans le blues.
Ah, Jacques Gasset.
Attendez, il est désopinant le bougre. C'est du reste pour ça que j'ai accepté qu'il me filme.
Le cassoulet de Marcel était renommé. Je crois savoir qu'il y a même des musiciens qui ont enregistré des titres. Il y a Marcel Morgantini, ce cassoulet, je crois que c'est Jimmy Dawkins. Je pense que vous aviez un sens de l'accueil assez particulier, atypique, hein, pour ces musiciens nord-américains.
Pour ces noirs, vous comprenez bien, être reçu dans une famille de blancs être reçu comme on le faisait avec tous les liqueurs, les vins, whisky et autres, qui pouvaient espérer plus champagne pour Muddy Waters, qui a découvert ça, et cassoulet, etc. Et il n'en revenait pas. C'est pour ça que, comme je m'occupais de la création des tournées avec Jean-Marie Monestier pour les Chicago Blues Festival, il était entendu entre nous que les vendredis, les musiciens venaient chez moi.
Ouais.
Il y avait relâche. Et alors donc, il y avait repas et spontanément, ils allaient chercher dans le bus leur guitare et ils jouaient là.
Ça, alors, c'est quelque chose que...
Aucun va chercher ta guitare, non.
C'est ça, c'est quelque chose que vous signalez dans le DVD. Ils y allaient s'ils voulaient, et puis s'ils ne le sentaient pas, il n'y avait pas de demande de votre part. C'était pas, ça ne faisait pas partie du pack de la soirée, mais c'était quelque chose de spontané. Hein.
Absolument. Mmh. Et du reste, une anecdote, il y a Louis Myers, le guitariste des Aces, qui, alors que son frère prenait la guitare, parce que Dave joue de la basse, mais il joue de la guitare aussi, prenait la guitare volontiers, Bilo jouait de la batterie, lui, il était là, debout, je lui ai rien demandé, bien entendu, et il n'a pas joué. Et après, quand on a été aux États-Unis, qu'on les fréquentait beaucoup, ils étaient toujours fourrés avec nous, et il a vu l'accueil et les disques que Marcel faisait, il m'a dit cette phrase touchante, il m'a dit « Je ne savais pas les gens que vous étiez, et j'ai du remords de ne pas avoir joué chez toi, mais la prochaine fois que je viens, je veux jouer chez toi.
» D'accord, le regret peut-être de ne pas avoir suivi de façon spontanée, de ne pas avoir fait la totale confiance envers quelqu'un qui finalement voilà, n'avait aucun intérêt. Je crois qu'il faut le signaler ça, Marcel et Jacques, vous avez travaillé sans intérêt financier pour l'histoire, ça vous a même coûté du pognon toutes ces histoires-là, non ?
Ah ben bien sûr, parce qu'on n'est jamais rentré dans les fonds.
Il faut le dire ça, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas tout, et c'est bien normal. Il faut peut-être rétablir certaines choses, la passion ça a un coût.
Eh oui. Ah. Oui, un gros coup, oui.
Voilà. Non, parce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient dire « Ouais, mais alors ces gens-là, pas forcément parlant que de vous, mais bah, ils se sont fait du pognon sur le dos des Noirs américains, et puis les royalties, machin, ils s'en sont
pas
fait de l'argent de poche. » Pas du tout. Hein. On peut le redire, ça, parce que ça, c'est important. Il y a une anecdote également sur Marcel Morgantini. Je crois qu'il y a un des artistes de Chicago qui n'avait pas forcément odeur de sainteté chez vous parce qu'il avait osé proposer la main. Enfin, il avait osé demander sa main à votre épouse.
Ah, non, il y en a deux
qui ont fait ça. Oh là là, les coquins, les brigands. Il y a Willie Kent, on peut le dire maintenant, il n'est plus là, Willie Kent. Et puis l'autre, c'était qui?
Willie James Lyon,
c'est bien, qui est voilà. Disparu également.
Mais il y a une autre anecdote qui est succulente, qui est truculente même, c'est le cas de le dire, excuse-moi, mais...
Jacques Gasser, oui.
Non, mais c'est, Jacques va raconter l'histoire de Willie Dixon avec Memphis, dans la voiture.
Alors Memphis Lim, avant d'avoir une Rolls, avait acheté une grosse Jaguar, 4 places, et... On était à Paris avec lui, on se déplaçait dans sa voiture, j'étais assis à côté de lui devant, et derrière il y avait Willie Dixon qui jouait à ce moment-là avec lui, et Marcel. Et très vite Willie Dixon a entrepris manuellement, assez sérieusement, Marcel, et il y a Memphis qui dans son rétroviseur voit ça, qui lui dit, je te signale que son mari est assis à côté de moi.
Ah.
Il a répondu, ça ne me gêne pas le moins du monde. Ne nous gênons pas.
D'accord. Excellent. Oui, Dixon, un coquin encore, lui. Ça se souvient.
Ah oui, Marcel était obligé de remettre les choses à sa place, évidemment.
Ah oui.
Ou les mains.
Oui.
Voilà.
Les enregistrements SCM, c'est un petit peu comme les Apollo. Il devait y en avoir 20, il n'y en a eu que 17. Hein, certains sont arrivés autour de la Lune, d'autres ont atteint leur objectif. Est-ce que les 17 disques MCM ont eu un succès commercial?
Eh bien, non, parce que ça a été, encore une fois, assez confidentiel. Il y a Saul Bach qui en a parlé.
Oui.
Le bulletin du Club de France n'en a jamais dit un mot, parce que les dirigeants d'alors, comme j'ai été évincé du Club de France sur la base d'un mensonge, et ils voyaient d'un mauvais œil l'importance que je prenais, etc. Bon, alors, mais ils m'ont rendu service, les bougres. Et donc, je suis revenu au Club de France avec d'autres dirigeants, où j'écris des articles dans le bulletin, qui sont relativement prisés.
Et donc, ça, c'est un petit peu la revanche. Par rapport aux albums MCM, c'est la question que j'allais poser juste après Pedro Sabater, là encore, comme tout à l'heure, Alain Jalbert, on est vraiment en osmose là, sur cette émission en direct. Ce serait bien de les rééditer sur CD, les MCM. C'est dans...
Ils sont.
Ils ont été réédités par la marque Storyville.
Mais actuellement... pourquoi ça nous a échappé à nous, ça? C'est bizarre.
Non, allez-y, Jacques.
Allez-y, 2 minutes.
Non, mais je reprends un peu la parole parce qu'il est, oui. Il a des petits soucis là. Écoute, Storyville vient de sortir un coffret, avec dont Jacques a sélectionné les meilleurs compos de MCM.
Ah voilà, donc ce sont des best-of, on est bien d'accord. Moi je parlais de réédition intégrale.
Non, mais c'est sorti chez Storyville au Danemark.
D'accord.
Voilà, vous pouvez trouver toute l'intégralité. Ensuite, il y a le coffret qui regroupe le premier coffret qui s'appelle le Chicago Blues Box.
Chicago Blues Box, oui, voilà.
Et Jacques est en train de terminer la seconde mouture de la Chicago Blues Box numéro 2.
Donc, voilà, je suis en train...
Avec les deux Blues Box, vous avez une grande partie l'intégralité. Vous avez.
Ce qui est important.
Voilà,
d'accord.
Ce qui est
avec. C'est bien ce que je disais. Avec un package différent, j'ai sous les yeux là, sur l'ordinateur.
De
Chicago Blues Box. Effectivement, il n'y a pas tout.
Il y en a deux qui va sortir après.
D'accord. Donc c'est pas tout à fait terminé. Le premier date de 2013, si je crois ce que je lis.
Oui, c'était récemment. Oui, il n'y a pas si longtemps. Ouais.
Voilà, donc en fait, on peut, pour répondre à Pedro,
peut
se procurer du MCM sur disque CD.
Mais il peut aussi commander éventuellement chez Storyville l'ensemble des CD de la collection. Hein.
D'accord, tout à fait. Ben, écoute, ça c'est une très très bonne nouvelle. On revient sur ce double DVD Mémoire de Blues dont on parlait en début d'émission avec toi, Jacques Gasser, réalisateur de ce double DVD qu'on peut se procurer, on l'a dit tout à l'heure, comment et puis voilà, qui n'est pas... pour 4 heures de documents, de causeries, avec des anecdotes, comme on vient de les entendre, et puis de la musique, des vidéos, des photos, enfin, près de 4 heures.
Oui,
et puis surtout inédite, effectivement.
Un
voilà.
Film Super 8 que les Américains n'ont même jamais vu sur le début de la carrière de leurs propres artistes, comme Magic Slim, Jimmy Johnson, plein d'autres, même Jimmy Dawkins, etc. Ou comment il s'appelle, Fred Billot, pardon.
Oui.
Et en plus des images aussi, d'autres images fixes, et puis il y a un bonus exceptionnel de 10 titres inédits, des enregistrements inédits, enregistrés par Jacques chez lui ou dans des concerts à Pau, Bayonne ou à Biarritz.
Ouais.
Mais il y a quand même des choses exceptionnelles comme Luther Snake Johnson à la fin de sa vie, malheureusement, qui joue dans le salon de Jacques en acoustique avec Dave Myers, quoi.
Little Maximum.
L'harmoniciste.
Ou un Johnny Shines qu'on entend jouer avec Luther Snake Johnson, on ne le voit pas, mais voilà.
Mémoire de blues de Jacques Morgantini sous la houlette du Jazz Hot Club de Pau. Le double DVD est en vente au prix de 30 euros. C'est rien, hein, c'est franchement.
C'est ça, oui. Hein,
pour 4 heures de documents.
4 euros de frais d'envoi pour la France.
D'accord, ben c'est encore une fois, c'est rien.
Mémoire de blues.org. On a tout de suite, je dois mettre à jour des tas de nouveautés. On va mettre une biographie en français et en anglais aussi de Jacques et Marcel, une biographie rapide. Il y aura aussi toute la discographie de MCM qui a été
réalisé par notre ami Juan Pérez Aznar.
Oui.
Juan Pérez Aznar, qui était le batteur de Nico et Michel quand ils jouaient dans Vent du Sud à l'époque, et qui a aussi traduit en langue pour les hispanophones,
oui.
en espagnol, qui a traduit la Bible de Gérard Stapp.
L'encyclopédie, voilà. Du blues.
Ouais, exactement, il a quand même fait tout ça. C'est un grand collectionneur, c'est un homme très averti des choses du blues en Espagne. Voilà, nous avons fait la jonction avec la communauté espagnole également.
D'accord. Je crois savoir, Jacques Morgantini, Jacques Gasser, qu'il va y avoir une suite à Mémoire de Blues et que c'est peut-être même déjà en préparation.
Non, il n'y a pas de suite. Non, disons qu'on a une petite idée de faire
Allez.
Non,
un petit scoop pour suite au Chicago.
Si. On a encore plein de choses. Ouais. Mais je crois que la suite, ça va être plutôt les inédits musicaux que Jacques a enregistrés, peut-être. Et puis,
Il y a de la demande, effectivement, pour ça, hein, les inédits. Il y a peut-être des heures et des heures à dérocher, mais il y a forcément des choses intéressantes. Il y a peut-être aussi des choses qui vont jamais sortir, comme disait Jacques tout à l'heure, Jacques Morgantini. J'ai pas été très satisfait de telle ou telle session, comme c'était dit dans le DVD, à un moment donné, ils avaient peut-être un peu trop picolé, et puis ça tenait pas la route. Il y a des choses comme ça qui vont rester.
Par exemple, pour ça, vous l'aurez pas, hein, je pense. Hein.
Ouais. Il y a des choses qui vont rester dans les tiroirs, en fait. Hein,
oui, non, mais parce qu'en fait, j'ai reposé la question à Jacques,
oui.
Au moment de faire, ça y est, j'ai le trou de mémoire pour cet artiste, Jacques. Vous savez,
Henri-Désiré Landru.
Voilà, c'est ça, pour Henri-Désiré Landru, j'ai reposé la question, il a réécouté, il a dit non, je ne veux pas le diffuser, c'est pas bon du tout. Donc effectivement, c'est toujours sur les bandes, mais Jacques ne souhaite pas le diffuser, quoi.
Oh, d'accord.
Voilà. Le film, il aurait pu s'appeler de Chicago à Chicago.
Ah oui, bien vu, elle a bien trouvé ça. Oui, oui,
ah, voilà.
Ça, c'est dur.
Ah oui, il est d'une drôlerie.
Ah, c'est un jeu de mots, hein, Jacques, exceptionnel. Hein. C'est, voilà. Je pense que... Les frères Jacques au téléphone, Jacques Morgantini, Jacques Gasser. C'est un plaisir partagé, je pense aussi par les auditeurs, que d'entendre toutes ces anecdotes, voilà, qui ont été glanées au fil de ces décennies passées à écouter, à faire venir tous ces musiciens américains. J'ai encore d'autres questions pour Jacques Morgantini. On va pas non plus passer une heure de plus, parce que c'est vrai qu'on pourrait passer effectivement toute l'après-midi à discuter ensemble, mais je voulais quand même qu'on parle. Oui, allez-y.
On en fera d'autres. Du reste, j'ai reçu le chèque que vous m'avez envoyé.
Eh ben, ça marche, très bien.
Je vous donne entièrement satisfaction. Et
parfait.
Je suis prêt à remettre, encore une fois, ma voix bouleversante, qui fait que bien des femmes, à la suite de cette audition, vont changer d'optique sur la vision qu'elles ont de leur mari.
Ah oui, c'est aussi mon avis. Oui. J'espère que je ne me suis pas trompé sur le nombre de zéro. Hein.
Je renverrai, moyennant versement sur mon compte en banque aux îles Caïmans, bien entendu, je renverrai une photo de moi en train de ramasser des crevettes, et c'est sûr que leur vie sera bouleversée.
C'est pas la peine de lui envoyer du fric aux îles Caïmans, il croque tout déjà.
En pleine forme, Jacques. Non, je voulais quand même une dernière question par rapport au stage blues que Jacques Morgantini organise chez lui, s'il vous plaît. Il y en aura, je crois, au mois de décembre. Il y a quelques autres rendez-vous comme ça qui sont pris. Moi, je me mets toujours à la place de l'auditeur qui dit ce type-là, je veux absolument le connaître, je voudrais le rencontrer, j'aimerais qu'il me raconte comme ça toutes ces anecdotes et puis lui poser tout plein de questions en direct. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est encore possible?
Eh bien, c'est encore possible. Il reste des places dans les stages qui étaient prévus pour cet automne. C'est pas compliqué. Vous donnez mon nom et mon adresse. Ils m'écrivent ou ils me téléphonent, c'est bougre, et ils seront accueillis avec à table, parce que j'invite en plus à manger.
Et oui.
Ah oui, c'est un champion de l'omelette au cèpe. Hein. Marcel, elle faisait le cassoulet. Lui, c'est l'omelette au cèpe.
Moi, c'est l'omelette au cèpe, et c'est également du foie gras mi-cuit, avec du jurançon moelleux, C'est un péché, rien qu'y penser.
J'imagine. Alors franchement, il y a des auditeurs là, ça y est, qui ont déjà commencé à trépasser.
Ils nous parlent sur le téléphone.
Alors, c'est pas compliqué. Ils m'écrivent, je leur envoie la manière dont se déroulent les stages, avec des propositions de date. Ils viennent, il y a des gens qui viennent même de Suisse, qui viennent du Luxembourg. Oui, c'est utile pour passer mes petites valises, ces gens-là.
Oui, tout à fait. Oui, c'est ce que j'allais proposer. C'est peut-être une alternative aux îles Caïmans. On peut écrire, oui. On peut donner l'adresse mail, Jacques. Hein.
Non, mais c'est-à-dire que si, oui,
l'adresse mail.
Morgantini.jacques.
Jacques.
Voilà.
@9neus9 comme le chiffre.
Ouais.
.fr.
Morgantini.jacques@9.fr. On va écrire ça également sur le Facebook pour prendre contact avec vous pour vous inscrire à un prochain stage.
Dans tous les cas, s'il y a quoi, ils peuvent toujours joindre le mail de mémoiredeblues.org, ça lui est transféré.
D'accord, et ben voilà, comme ça c'est parfait. Ce sera ma toute dernière question. Je crois, je regarde un petit peu hein, s'il y a d'autres. D'autres réactions, voilà, une omelette au cèpe en parlant blues, what else, effectivement, hein, Lolo qui nous met ça, ben voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel que d'avoir pu converser avec vous deux, Jacques Gasser, Jacques Morgantini, merci mille fois merci.
Oui ou non?
Pardon?
Il veut la question de Queen Lolo.
Alors la question de Queen Lolo, c'est pas une question, c'est tout simplement une omelette au cèpe en parlant blues, what else, voilà ce qu'elle met.
Ah, d'accord.
Merci beaucoup, Jacques Gasser, Jacques Morgantini. On reste en contact par téléphone, par mail, par Facebook, par tout ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, moi, l'adresse de là où on fait les omelettes, moi, je la garde pour moi aussi. Et ben, on sera pas sans se revoir sur la route du blues. En 2017, vous avez rendez-vous au Cahors Blues Festival pour une nouvelle conférence, hein.
Non, pas une nouvelle conférence, une vraie conférence importante. Il y en aura même deux, parce que ça sera l'histoire du blues, le blues rural, etc., toute l'évolution du blues, comment est foutu le blues, comment il y a des différentes sortes de blues, comment les musiciens évoluent dans toutes ces harmonies, d'une part, et ce qui est important, le lendemain, je ferai quelque chose en dehors de l'omelette au cèpe. Le lendemain, je donnerai les traductions de très nombreux blues qui traitent de sujets très différents, de façon à ce que les gens qui ne comprennent pas tous l'anglais, et puis pourquoi comprendre l'anglais? Moi, je comprends rien à ce que dit la reine d'Angleterre quand elle fait le discours du trône, c'est évident. Hein. Mais par contre, pour parler avec des bouseux de la vallée du Mississippi, eh bien, ils ont un langage qui est à eux, une sorte de patois, des locutions qui leur sont propres. Ouais. Eh bien là, j'ai traduit des blues, et en conséquence, les gens comprendront ce qui se dit et quels sont les sujets principaux qui sont traités dans les blues. Et ça peut faire le sujet d'une seconde journée à Cahors.
Ça c'est vraiment quelque chose. Ça va donner une occasion supplémentaire aux gens de se rendre au prochain Cahors Blues Festival. Comment, Jacques?
Faire la jonction entre le trône et les bouseux, je trouve que c'est pas mal.
Effectivement. Jacques, encore une fois, grand merci, les frères Jacques, on peut dire. Et puis, on se revoit très bientôt sur la route du blues, dont on va continuer à écouter ces musiques merveilleuses. Et si on se revoit pas avant juillet 2017, ben, ce sera en juillet 2017, forcément, hein, sur le Cahors Blues Festival. Merci à Robert Moriès, qui nous permet également, qui nous a permis de nous rencontrer, hein, déjà, parce que c'est lui le président.
Et vous, si vous n'avez rien à foutre dans votre existence pouilleuse, ben, vous pouvez venir en stage chez Morgantini, vous apprendrez des choses. Par exemple, dans quelques jours, il va y avoir le magnifique pianiste de blues et de boogie-woogie, Jean-Pierre Bertrand,
oui,
qui va venir suivre un stage comme Jean-Paul Lamouroux, comme Ben Toury, comme Julien Brunto. Ils suivent des stages chez Morgantini.
Ah là là.
Et on dit, mais des gens qui en savent autant que vous, pourquoi vous venez? Il dit, parce que tu nous apprends toujours des tas de choses.
Voilà, et tu seras hébergé chez moi, comme ça, il y a le Jurançon, le foie gras et tout, quoi.
Ah là là, vous êtes trop.
tu auras la connaissance de l'esprit et la connaissance du ventre.
Merci Jacques. Alors ça c'est une sacrée bonne nouvelle. Ça. Avant l'été prochain, c'est promis. Je descends. Oui.
Allez.
À très bientôt.
À bientôt et merci de cette interview. Et je sais que ça a été pour vous pire qu'une Légion d'honneur remise dans la cour de l'Élysée que de rencontrer un être aussi exceptionnel que moi.
Ah, c'est clair. Et puis surtout d'avoir foulé la même scène que vous au Cahors Blues Festival le 15 juillet dernier parmi les lauréats France Blues. Ça a été plus qu'un honneur redoublé par votre présence. Ça, je peux vous le dire.
Oh là là.
Et tu sais qu'il est... Alors, c'est là pour toi, c'est une... Comment on va dire? C'est une info de toute première qualité.
Dis-moi.
C'est qu'en fait, nous l'avons avec Michael Okeway Herman. Nous avons préparé tous les éléments et tout est envoyé à la Blues Foundation à Barbara Newman.
Oui, à Memphis.
Pour une nomination au KBA. De Jacques et Marcel Morgantini.
Eh ben voilà, ça c'est quelque
voilà,
chose qui est...
le premier à être au courant.
Quelque chose qui est plus que mérité. Merci pour le scoop, Jacques. On relèvera bien sûr, ça se passera fin janvier à Memphis, je crois.
Hein. Exactement.
Merci beaucoup. On va poursuivre, nous, en écoutant encore tous ces artistes merveilleux. On va revenir sur le disque du mois. Et puis, voici, tiens, Jimmy Dawkins. Au revoir, Jacques. Merci beaucoup. Au revoir.
Salut. Merci. Salut, Marc.
Salut, Jacques.
My mother. what I say, woman. You better even watch the way you talk. I mean what I said, woman. You better even watch the way you talk. I'm all for business. I ain't got no time for play. I'm all for business, baby. I ain't got no time for play.
Off business, c'est monsieur Jimmy Dawkins, l'un des nombreux bluesmen qui a pu croiser Jacques Morgantini. Merci encore, merci, un grand merci à Jacques Gasser, le réalisateur de ce double DVD Mémoire de Blues sous la houlette du Jazz Hot Club de Pau. Et merci, un grand merci à Jacques Morgantini pour ce témoignage, fabuleux témoignage. Légende vivante, Jacques Morgantini, c'est l'homme qui a donner le blues à la France, hein, carrément, nous n'ayons pas peur des mots. On poursuit avec un extrait du disque du mois, hasard du calendrier, c'est Julien Brunotto, dont vient de parler Jacques Morgantini, qui est parmi ses stagiaires, hein, avec Ben Toury, avec Nico Wentoussin, avec quelques autres. Voici Julien Brunotto dans Playground, son tout nouvel album, et le titre que je vous propose c'est Happier Than the Morning Sun. C'est ainsi que se termine la deuxième heure de Sweet Home Chicago. Durant la troisième heure, il y aura notamment vos dédicaces.
If I give you a chance to come inside of my life.